Peut-être pour conclure notre conversation, Suzanne, en vue de ce débat auquel on va consacrer, j'imagine, beaucoup de temps, femmes et engagement politique, j'aimerais te demander, toi tu as déjà été confrontée très concrètement avec les femmes parlementaires, puisque lundi soir, le Bureau de l'égalité des droits entre hommes et femmes, avec les diverses organisations féminines et féministes genevoises, avait décidé de réunir les parlementaires suisses, femmes, qui sont à Genève en ce moment, pour essayer de discuter des questions qui ont trait aux femmes. Alors, est-ce que pour toi, qui as plutôt été habituée à faire partie de cette société civile, comme tu l'as décrivé tout à l'heure, ça a été une première rencontre intéressante et porteuse d'espérance, comme quoi ça vaut la peine de discuter avec les femmes parlementaires d'aujourd'hui?
Oui, je pense que ça vaut effectivement la peine de discuter avec certaines d'entre elles. Donc il faut dire qu'il y en avait une dizaine qui était venue, et je pense que celles qui avaient choisi de venir, c'était effectivement les plus féministes, disons, elles sont du reste déjà un peu connues par rapport à leur position.
Tu veux dire par là que pas toutes les parlementaires ont répondu à l'invitation, elles étaient toutes invitées?
Elles étaient toutes invitées, elles sont, je ne sais plus combien, elles sont 35 ou 40, et il y en a une dizaine qui sont venues. Et moi-même, j'ai pu participer à une discussion avec l'une d'entre elles qui s'appelle Cécile Bühlmann, qui en fait organise le groupe des femmes parlementaires à Berne. Donc une fois par session, elles se réunissent, elles discutent d'un thème.
Donc Cécile Bühlmann qui est conseillère nationale la liste des Verts de Lucerne,
voilà.
C'est ça?
Mais qui pourrait être sur une liste frappe. Disons, c'est une femme qui se définit avant tout comme féministe, mais qui a fait le choix d'entrer dans un parti auquel elle pouvait adhérer au niveau de ses grands principes, mais avec une position plutôt utilisatrice de ce parti et de cette structure. Et donc elle a fait ce choix, mais elle définit sa présence au Parlement par rapport à définir et réaliser une politique féministe. Et elle tente de réunir donc les femmes parlementaires une fois par session, et elle a pu constater donc que les femmes des partis dits bourgeois ne viennent pas à ces réunions, à l'exception donc de quelques femmes des partis du centre, du PDC, et sans ça, c'est les femmes du PS, des différents partis écologiques, et puis celles de la liste Frappe qui ne sont pas encore très très nombreuses. Donc de toute façon, il y a un net clivage politique parmi les femmes.
Et est-ce qu'elle a exprimé, Cécile Bühlmann que tu as rencontrée, aussi l'importance d'avoir des contacts avec les femmes qui sont hors institution, justement?
Absolument, elle donne une très très grande valeur au mouvement des femmes, mais je crois qu'elle est tout à fait consciente que sans le mouvement des femmes, sans un mouvement fort, sa présence au Parlement n'a absolument pas le sens. Donc elle aimerait les deux choses, elle aimerait qu'il y ait plus de femmes dans la structure pour changer cette structure, pour changer ses modes de fonctionnement, pour changer la priorité des thèmes, sans que cela vide le mouvement. Pour elle, c'est extrêmement important, la pratique des femmes dans le monde associatif et dans la société civile. Et j'ai pu aussi rencontrer une autre députée socialiste du Parti socialiste de Bâle, Marguerite von Feltern, qui, elle, est aussi entrée à partir d'une pratique féministe dans le Parti socialiste. Donc elle a choisi le Parti socialiste, elle a choisi cette structure-là, et elle y trouve un intérêt, elle adhère aux grandes lignes de son programme, mais elle est aussi avec une position, disons, de l'utiliser, et en tout cas de ne pas se faire utiliser. Et elle-même, elle voit un intérêt à faire partie d'une structure qui dispose d'un certain nombre de moyens, qui dispose d'un certain budget. Elle n'est pas contre le fait qu'il y ait des structures. Elle dit qu'il faut s'en emparer. Donc évidemment, c'est un énorme travail parce qu'il faut entièrement les connaître avant de pouvoir s'en emparer. Elle-même, elle dirige le groupe des femmes socialistes du PS. Donc c'est une structure relativement formelle où il y a deux femmes déléguées par canton qui ont un certain nombre de devoirs et aussi un certain nombre de droits. Donc elles ont droit à un budget, elles ont droit à un certain nombre de moyens, elles ont droit à intervenir dans un certain nombre d'instances dirigeantes. Et elles pensent que c'est une manière d'être efficace donc par rapport au travail qu'elles réalisent en plus dans le Parlement au niveau national. Et j'ai trouvé les contacts avec ces deux femmes extrêmement intéressants et encourageants. Ça veut dire que je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait plus de femmes de ce type-là dans les différents parlements et que ça vaut la peine de les soutenir et de les accompagner.
Suzanne, est-ce un hasard que tu as rencontré deux femmes venant de Suisse allemande? Ou est-ce que, tout comme on posait la question avec Christine Gull et Stella Jäger, tu avais envie de rencontrer des femmes suisses allemandes pour voir quelle différence il y a avec l'engagement des femmes suisses allemandes et des femmes romandes?
Oui, moi j'avais cette envie, et cette envie était partagée par les organisatrices du Bureau de l'égalité de Genève qui avaient invité les femmes de Suisse allemande très spécifiquement. Je crois que les quelques romandes qui auraient été susceptibles de venir, en tout cas, elles ne sont pas venues, mais ce n'était pas du tout par hasard. Disons, c'était vraiment, il y avait vraiment cette volonté aussi de faire connaître ces femmes de d'autres parties de la Suisse aux femmes de Genève.
Alors voilà, Suzanne, je crois que nous allons nous quitter sur ces paroles. Il y a beaucoup de questions qui vont être discutées demain soir. Des questions précises, des questions de fond. Il y a cette rencontre intéressante entre les femmes de Suisse alémanique qui sont déjà engagées depuis de nombreuses années sur l'idée de liste de femmes. Et puis, la confrontation avec le choix des femmes romandes. Donc, nous pouvons encore une fois convier nos auditrices et les auditeurs, parce que je pense que ça peut intéresser des hommes de savoir comment les femmes s'engagent et comment elles imaginent leur place dans le monde politique d'aujourd'hui. Donc, je vous le rappelle, jeudi 7 octobre, 20h30, à Genève, à la petite salle du Faubourg au rez-de-chaussée, 6 rue Terreau du Temple. Alors, à demain soir, Suzanne.
Non, je t'ai plus, il est trop tard. Un inconnu sur sa guitare fait le bilan.
Alors, Remue Ménage pour aujourd'hui, c'est terminé. La semaine prochaine, eh bien, on se retrouve avec le collectif du 14 juin. Collectif du 14 juin qui travaille comme des folles en ce moment. Enfin, je crois pas seulement en ce moment, d'ailleurs. Mais c'est sur un tout autre thème. Nous retrouverons Marielle Budry et Claire-Lise Dreyfus pour parler des femmes réfugiées. Et tout de suite, avec beaucoup de plaisir, nous retrouvons les informels de Radio Pleine Lune et Viviane.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune, Ondes Femmes, nos nouvelles tout de suite, immédiatement. Alors, pour continuer avec le débat de Remue Ménage, une petite nouvelle sur la présence des femmes dans le monde parlementaire. Elle ne fait que chuter. Les femmes parlementaires ne sont plus désormais que 10% dans le monde entier, alors qu'elles étaient en 1988 plus de 14%. On n'arrête pas le progrès. En ce qui concerne l'Amérique latine, les grands champions de la défense des femmes, en tout cas dans le Parlement, c'est Cuba avec 34% de femmes au Parlement, suivi par le Nicaragua, 16%. Tout en bas de liste, on trouve l'Argentine avec 4%. Au Pakistan, Madame Bhutto veut reprendre le pouvoir. L'ancienne première ministre bénéficie d'une légère avance sur les musulmans conservateurs. Les observateurs s'accordent à prédire que le scrutin sera sans doute le plus régulier que le Pakistan ait connu en 47 ans d'existence. La formation de Benazir Bhutto devrait en sortir victorieuse. Pour les dernières journées de la campagne, Benazir Bhutto s'est fait acclamer à Lahore où elle avait organisé un grand défilé. Il n'empêche que les organisations féministes lui reprochent d'avoir ignoré le sort des femmes musulmanes durant les 20 mois qu'elle a passé à la tête du gouvernement entre 88 et 89 et 90. Alors qu'elle s'est forgée à l'extérieur une image de championne des droits de la femme, elle aurait pu faire quelque chose dans son propre pays, déplore la directrice du Forum d'action féministe au Pakistan. Aux États-Unis, un texte sur l'homosexualité à l'armée est passé au Parlement. Les homosexuels se heurtent à des grosses réticences dans l'armée américaine. Ils sont découragés d'y entrer. La Chambre des représentants vient d'adopter un texte visant à décourager l'engagement des homosexuels dans l'armée américaine. Ce document qualifie l'homosexualité de risque inacceptable pour le moral des troupes. En Allemagne de l'Est, les bébés se font très rares. Il y a deux fois plus de décès, par exemple, que de naissances dans la ville de Leipzig. Les Allemands de l'Ouest, tellement grincheux à l'idée de partager leur confort avec ceux de l'Est, se rassurent. Il n'y aura bientôt plus d'Allemands de l'Est. C'est en ces termes d'un humour grinçant que Regine Hildenbrandt, ministre régionale des Affaires féminines dans le Brandebourg, a récemment lancé un cri d'alarme au vu des statistiques démographiques de l'ex-RDA. À Leipzig, comme je vous l'ai dit, il y a deux fois plus de décès que de naissance. En 1992, le taux de fécondité était de 0,77 en Allemagne de l'Est contre 1,31 à l'Ouest. Il faut dire que depuis la chute du mur de Berlin, la condition de vie des femmes s'est beaucoup détériorée et les femmes ont peur de l'avenir, crainte du chômage, angoisse de ne pas retrouver du travail après une maternité, appréhension devant l'éventualité d'un licenciement en cas de grossesse et puis suppression des crèches d'entreprise. Telles seraient, selon les analystes, les principale raison de cet effondrement catastrophique de la démographie en Allemagne de l'Est. Il est vrai que 65% des chômeurs est-allemands sont des femmes et que 20% des personnes vivant de l'aide sociale sont des mères célibataires ou divorcées. En Suisse, on vient de discuter à Genève, au Conseil national, de la nouvelle assurance maladie. Elle sera plus solidaire et mieux contrôlée. Ruth Dreyfus a défendu à Genève cette nouvelle loi qui devrait entrer en vigueur dès 1995. On a entre autres abordé l'accroissement de la solidarité par l'égalisation des primes de l'assurance de base entre hommes et femmes, jeunes et vieux. Et c'est ce qui a été discuté. Par 98 voix contre 56, le Conseil national a renoncé à inclure l'assurance perte de gain de manière automatique dans l'assurance maladie. Les travailleurs qui changent d'emploi sont donc pénalisés, regrette Ursula Hafner du Parti socialiste. La solidarité donc sera totale, mais pas nationale. Le système de santé étant fédéraliste, chaque canton devra instaurer une prime unique sur le modèle genevois et vaudois. Les personnes âgées seront ainsi aidées par les femmes, les jeunes, les femmes qui constituent des mauvais risques à cause de la grossesse seront aidées par les hommes qui finalement font aussi des enfants. Et les riches paieront plus que les pauvres car les subventions ne seront plus réparties de manière largement uniforme mais ciblées sur les faibles revenus. Les femmes d'ailleurs repartent en campagne pour demander une assurance maternité et vite. En Suisse, des comités de gestation se sont organisés. Les militantes veulent un congé payé de 16 semaines pour toutes les mères qui travaillent. La plateforme de revendication va plus loin que ce que Ruth Dreyfus est pour l'instant d'accord de défendre au niveau du Conseil fédéral. En tout cas, l'attentisme a assez duré. Il est temps d'accoucher d'une véritable assurance maternité. Nous voulons ce qui nous est dû, disent les organisatrices de cette campagne. Après la grève du 14 juin 1991, après les manifestations de mars dernier devant le Palais fédéral, après le lancement de l'initiative demandant une répartition équitable des femmes et des hommes dans les autorités fédérales, le mouvement des femmes est donc parti en lutte pour obtenir maintenant une véritable, et j'appuie sur le maintenant, une véritable assurance maternité avec un congé payé de 16 semaines au minimum pour toutes les femmes exerçant une activité professionnelle. Pour obtenir ce congé, le mouvement des femmes a longtemps été divisé entre diverses stratégies. Inscrire l'assurance maternité dans le cadre de la loi sur l'assurance maladie, exiger une nouvelle assurance, autre motif de discorde, fallait-il que tout le monde la reçoive ou seulement les femmes qui travaillent à l'extérieur et pas seulement à la maison. Désormais, un consensus a vu le jour. Les femmes demanderont une assurance indépendante. Elles se battront dans un premier temps pour que le congé soit accordé aux salariés. La campagne des comités en gestation illustre cette tactique. D'une part, les Suisses sont appelés à signer un manifeste qui demande un congé maternité de 16 semaines pour les femmes exerçant une activité professionnelle. Le financement pourrait se faire sur le modèle de l'AVS. L'idée rejoint celle de Ruth Dreyfus qui a promis de reprendre le dossier en main. La conseillère fédérale sera soutenue par le mouvement des femmes, mais elle sera aussi mise sous pression. Les comités de gestation, à côté du manifeste, ont une plateforme de revendication qui va plus loin. Ils demandent notamment un mois de congé supplémentaire pour les mères qui allaitent, la compensation intégrale du salaire en cas d'incapacité de travail liée à la grossesse, la possibilité de prolonger le congé maternité par un congé parental avec garantie de l'emploi, des indemnités particulières pour les femmes sans activité professionnelle. Les comités de gestation proposent qu'en attendant le congé paternité, les nouveaux pères qui ont droit à un jour de congé lors de la naissance d'un enfant puissent convertir leur cours de répétition en temps d'accueil pour le nouveau-né. À Genève, un projet de loi concernant la protection de la personnalité, notamment le harcèlement sexuel dans la fonction publique, a été déposé par une dizaine de femmes. Ce projet de loi définit donc qu'est-ce que le harcèlement sexuel au travail et surtout comment, à l'État, on pourrait mettre sur pied une commission d'enquête. Toujours d'ailleurs à propos du harcèlement sexuel à l'État, vous vous souvenez cette fameuse histoire qui a ébranlé notre République et dont nous avons beaucoup parlé sur la radio, du docteur Duboulot, médecin-chef, médecin-conseil à l'État de Genève, accusé par 4 de ses employés de harcèlement sexuel. Finalement, l'État avait tranché, si on peut dire, puisqu'il avait renvoyé tout le monde en disant il n'y a pas eu de harcèlement sexuel, mais on déplace le médecin. Eh bien, celui-ci a décidé de démissionner. Et oui, il est parti. Il a retiré son recours contre l'État, donc contre son changement de poste, et finalement, il a démissionné. Les deux parties se sont entendues. La démission s'est transformée juridiquement en licenciement pour suppression de fonction. Comme ça, ce monsieur pourra aussi toucher le chômage. Et bien sûr, il a reçu des indemnités que prévoit la loi dans un tel cas, souligne le chef du département des finances, Olivier Vaudeau, qui ne veut pas dire combien. Mais il semblerait que ça doit tourner autour des 100 000 francs. C'est pas mal. Pour le reste, Olivier Vaudeau précise que l'état de santé du médecin, toujours en congé maladie, est difficile et inquiétant. Pauvre petit. Quant aux 4 plaignantes, elles n'ont pas reçu beaucoup de dédommagements, mais elles ont été déplacées. La présidente du comité contre le harcèlement sexuel, Véronique Ducret, indique que 2 d'entre elles ont été déplacées dans un autre service de l'État, dont une provisoirement, une autre est payée mais ne sait pas encore où elle va travailler. Enfin, la 4e avait jusqu'à fin septembre pour donner son congé, sinon elle était licenciée. Elle, bien sûr, elle a dû démissionner, on ne l'a pas licenciée, ce qui fait qu'elle ne doit pas toucher le chômage. Elle a trouvé un emploi en dehors de l'État. C'était l'une des plus virulentes dans la procédure. À Genève, les élèves infirmières s'élèvent contre la décision de ne plus rémunérer leurs études. Elles s'élèvent en disant « c'est un retour au 19e siècle ». L'application de cette mesure serait donc un retour au bénévolat que les infirmières ont trop connu. Les infirmiers et les infirmières en formation touchent actuellement une allocation de l'ordre de 1 000 francs par mois en moyenne. L'association des infirmières est d'avis que l'époque du travail non rémunéré dans le domaine des soins infirmiers est bel et bien révolue. À Paris, en même temps, les infirmières sont de nouveau descendues dans la rue pour protester contre les coupes budgétaires qui frappent la santé publique et la dégradation de leurs conditions de travail. À Genève, l'association Solidarité Femmes lance une nouvelle campagne d'affichage dans le bus et les trams de la ville. Les femmes maltraitées sont invitées à rompre le silence. On les trouve surtout dans les trams où on voit, donc ça invite les épouses battues ou les femmes battues à rompre le silence qui entoure la violence conjugale. Les affiches visent à sensibiliser l'opinion, à briser les tabous et à contribuer à l'évolution des mentalités. Bon, pour terminer mes nouvelles, je me suis bien sûr fendue d'un cochon, c'est normal. Alors c'est un classique du genre puisque c'est le pape. Et oui, une fois sur deux c'est le pape, mais il faut dire qu'il persiste et signe. Et dans sa dernière encyclique, qui s'appelle en plus La splendeur de la vérité, il rappelle que la liberté n'est rien, bien sûr, sans les valeurs catholiques. Et il dresse la liste de ce qu'il appelle des actes intrinsèquement mauvais. Alors, dans la liste, vous trouvez le génocide, suivi immédiatement par l'avortement. Et on adore ce genre de rapprochement. L'euthanasie, même le suicide, délibéré bien sûr, comme s'il y avait des suicides pas délibérés, mais enfin, passons, ça s'appelle un accident à mon avis. Les mutilations, la torture physique et morale quand même, les conditions de vie sous-humaines, les emprisonnements arbitraires, les déportations, l'esclavage, la prostitution, le commerce des femmes et des jeunes, les conditions de travail dégradantes et puis bien sûr les pratiques contraceptives dans la même liste que l'euthanasie et le commerce des femmes. Et celle-là est vraiment terrible. Tous ces actes sont des actes irrémédiablement mauvais par eux-mêmes et en eux-mêmes. Aucune intention bonne ne peut en atténuer la malice. Par contre, on fait des exceptions en matière, bien sûr, de peine de mort. Ça mérite un cochon. Deuxième cochon pour la Tribune de Genève, qui aujourd'hui, et ça suit bien le débat, nous présente une photo montage du futur Conseil fédéral. On pourrait s'y attendre, si ce n'est avoir 7 femmes, du moins 3. Eh bien non, il y a 6 hommes et une femme, et puis bien sûr, c'est une femme de droite, Frenis Perry. Alors, je terminerai par quelques rendez-vous. Le memento est très écourté. C'est une soirée un peu spéciale. Tout de suite, pour vous dire que demain, non seulement il y a le débat dont nous avons largement parlé, mais à 18h15, il y a également, à la place de la Fusterie, une manifestation des femmes en noir. Et puis, le 16 octobre, c'est un peu loin, mais rappelez-vous que collectif du 14 juin organise un grand marché aux puces fuchsia pour renflouer ses caisses. Alors, videz vos armoires et votre cave en pensant à ce marché aux puces. À Genève, l'école sociale lance une exposition en images sur le social. On pourra y voir entre autres les images de Valérie Winkler qui nous parlera de la mort si proche. Elle a fait une tournée dans les hôpitaux. Et puis des photoreportages avec entre autres des montages de Laurence Deona, Les yeux dans les yeux, Moyen-Orient. Et puis un reportage sur les grands reporters. Et puis avec aussi Laurence Deona qui sera là. Rendez-vous aussi de Wendo, l'autodéfense pour femmes et adolescentes. Eh bien, des stages repartent, entre autres ce week-end, le 9-10 octobre. Pour tout renseignement, vous téléphonez au 734 55 56. Je rappelle, 734 55 56. Le Centre Femmes Nathalie Bernet est toujours ouvert avec le mercredi La Bouffe. Et puis le vendredi 8 octobre, vous pouvez aller voir un film Thelma et Louise en vidéo. L'association Graffiti annonce que le prix Zora Larousse, prix des médias pour l'enfance et la jeunesse, a été décerné à cette association de femmes historiennes, l'association Graffiti. Donc c'est celle qui organise entre autres des visites de la ville. À cette occasion, le groupe d'historiennes Graffiti vous convie à un tour de ville abrégé sur l'histoire des femmes pour vous faire découvrir des lieux de travail de la vie des femmes genevoises. Ça se passe donc le mercredi 13 octobre à 17h30 sur les escaliers du Palais de Justice. Et à 18h30, il y aura une rencontre avec Madame Claudia Kaufmann, directrice du bureau de l'égalité à Berne, qui remettra officiellement le prix à la librairie des auteurs suisses, restaurant Sunset, 3 rue Saint-Léger. Les auteurs du guide des femmes disparues signeront leur ouvrage. F-Information relance son atelier d'écriture. Il y a un premier qui commence une séance d'information le jeudi de 15h, ce jeudi 7 octobre de 15h à 17h, donc dans les locaux de F-Information qui a changé d'adresse. C'est à la Servette maintenant, 19 rue de la Servette. Et puis pour terminer la semaine, dimanche 10 octobre à 20h, vous pouvez rencontrer Ruth Dreyfus et Micheline Calmiret qui abordera la question de l'AVS. Micheline Calmiret parlera de la situation des femmes à Genève. Une discussion ouverte permettra à chacune et chacun de poser toutes les questions qui lui tiennent à cœur. La rencontre aura lieu à 20h à la Salle des Abeilles, Palais de l'Athénée, 2 rue de l'Athénée. Vous prenez le bus pour y aller. C'était les informations de Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. À la semaine prochaine. Juste une petite annonce, nos émissions en direct se terminent ici, il n'y aura pas d'agenda culturel, Marjolaine est malheureusement malade, alors à 20h de la musique, un programme musical choisi, et puis aux alentours de 22h, une retransmission d'une émission qu'on vous a déjà proposée sur les rencontres que nous avons faites lors du festival de films à Paris, le festival de films de femmes de Créteil, et rencontres sur le thème le développement pour les femmes, Rio, Paris. Créteil. Non, Rio, Créteil, Pékin. J'y arriverai.
C'est le violoncelle de Joël Léandre que vous entendez en ce moment.